Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Didier Blé.
Merci de nous retrouver, excellent début de soirée à tous et à toutes et bienvenue. Institutionnalisation de processus d'apprentissage, amélioration de la gestion électorale. Pour répondre à ces différentes préoccupations, le réseau des structures de gestion des élections en Afrique est en réunion à Abidjan les 20 et 21 novembre 2023. Vous entendrez Koulibaly, Cubière, Ibrahim. 5 candidats entendent briguer le suffrage des militants pour l'élection du président du PDCI-RDA. Multiplicité de candidatures, validité et vitalité au sein du parti. L'analyse du docteur Eddy Guipier dans cette édition. Et puis en page internationale, en RDC, la campagne électorale a commencé hier dimanche. Plusieurs candidats étaient déjà sur le terrain pour ce premier jour. Terminant sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu cet après-midi les Gambiens sur le score de 2-0 au stade de Dar es Salaam en Tanzanie, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonsoir à tous, bienvenue. Comment institutionnaliser le processus d'apprentissage pour améliorer la gestion électorale? C'est la problématique que tente de résoudre le RESAO, Réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, réuni à Abidjan les 20 et 21 novembre 2023. C'est à l'occasion du symposium 2023, doublé de l'Assemblée générale des organes de gestion électorale. À l'ouverture de cette rencontre de redétermination pour des élections justes et transparentes dans la sous-région, le président du RESAO, par ailleurs, président de la CEI, a défini les enjeux. On écoute Koulibaly, Cubière, Ibrahim.
En choisissant cet objectif scientifique, c'est-à-dire le symposium sur le thème « Institutionnaliser les processus d'apprentissage pour améliorer la gestion électorale », le RESAO souhaite tirer profit des expériences multiples ou des bonnes pratiques observées ça et là en matière électorale et les mettre à la disposition des organismes de gestion électorale membres du RESAO. Précisément, en relation avec le mandat du RESAO qui est d'assurer la promotion d'élections libres, crédibles dans l'espace de la CEDEAO. Il s'agit donc d'aider les participants à entreprendre des processus d'apprentissage efficaces, améliorer la compréhension des besoins de soutien que des organismes de gestion des élections et d'autres parties prenantes peuvent avoir pour mener à bien les exercices d'apprentissage, identifier les besoins électoraux régionaux et les possibles actions futures du Fonds électoral pour l'Afrique. Au-delà des grands efforts de notre réseau, de s'auto-évaluer régulièrement, d'échanger les bonnes pratiques et de l'accompagnement des partenaires pour améliorer nos processus électoraux, force est de constater que d'importants défis demeurent sur l'issue des résultats des scrutins. Il y a des bonnes pratiques qui se font dans le pays dont il faut s'inspirer dans d'autres pays. Mais pour cela, il faut qu'on échange. Il faut qu'on fasse de ces pratiques qui ont réussi ailleurs une règle qui encadre l'élection. C'est tout l'enjeu de ce symposium.
Ibrahim Koulibaly Cubière, président de la CEI, également président du réseau des structures de gestion des élections en Afrique. Vie des partis politiques ivoiriens, la course à la succession du président Rico Nambédié est lancée. Noël Akossi-Benzo, Maurice Kakou, Guy Kayué, Kumwe Kofi, Tidjane Thiam et Jean-Marc Yassé sont les candidats qui briguent le suffrage des militants votants du congrès électif du PDCI qui va se tenir le 16 décembre prochain. Pour le docteur Eddy Guipier, enseignant en sciences politiques à l'université Péléforogon Koulibaly de Korogo, cette multiplicité de candidatures est le signe d'une vitalité et de l'expression démocratique au sein du vieux parti. Docteur Eddy Guipier est en ligne avec Jean-Claude Comet.
Sous réserve de l'acceptation des dossiers de ces candidats à la candidature, c'est-à-dire la candidature à la présidence du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, il faut dans un premier temps juger cette multiplicité des candidatures comme un signe de vitalité du parti. Nous avons plusieurs parcours et trajectoires différentes qui apparaissent dans ces candidatures. D'une part, des apparachiques pour certains très anciens, comme Benjo, nous avons aussi le ministre Guy Kayué, mais un élément de surprise qui apparaît avec l'ancien ministre Koumoué Kofi. Et donc, à ces apparatchiks-là, il faut associer la candidature de l'actuel maire Kokodi, qui effectivement, même s'il a milité au maire ici, mais avait quand même vécu une partie de sa vie à l'étranger. Et le dernier, mais non des moindres, c'est le candidat Tidiane Thiam, qui effectivement avait une très longue absence hors du pays, qui aujourd'hui a manifesté son intérêt de présider le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont à ces profils différents, là, avant même à typique qu'on assiste. Et je pense qu'il faut voir ça dans un premier temps sous le sceau de la redynamisation du parti, de la vitalité de l'expression démocratique dans ce parti.
Docteur Eddy Guipié, enseignant en sciences politiques à l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo. Célébration de la 27e édition de la Journée nationale de la paix, l'Église catholique de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour appeler à la culture de la paix, au vivre ensemble et au pardon du prochain. C'est le message que lance aux Ivoiriens et autres habitants de Côte d'Ivoire le père Norbert Eric Abécan.
La paix, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est notre premier président qui disait ça. Hein. L'Église catholique, la paix, c'est la personne du Christ Jésus, le prince de la paix, justement. Hein. C'est lui ressuscité qui dit à ses apôtres, la paix soit avec vous. Allez annoncer la paix. Alors, pour nous aujourd'hui qui marchons dans cette vallée des âmes, alors quand nous regardons dans notre monde aujourd'hui, quels sont les cris que nous entendons? C'est les cris de souffrance, les cris de guerre. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, est passé par ce chemin douloureux pour dire que, au fond, quand on regarde d'où viennent ces guerres, d'où viennent toutes ces tensions, mais ça vient des cœurs des personnes. Donc, comment faire? Au fond, tous nous sommes appelés à porter et à créer des conditions de paix, donner de la paix. Nous le pouvons. Revenons d'abord à Dieu qui est la source de paix. Pour nous chrétiens, à dire revenir à Jésus-Christ, la source de paix, pour pouvoir communiquer ces paroles d'amour. Autrement dit, il faudrait que notre maison commune, notre pays, ne soit pas une jungle où le loup mange l'agneau, ne soit pas une jungle où les plus forts écrasent les plus faibles, mais un lieu où il fait bon vivre.
Cohabitation des différences.
Exactement, exactement. Aller au-delà des différences, c'est exactement ça la paix.
Voilà, c'était le père Norbert Eric Abécan, secrétaire exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement de l'Église catholique. Il était en ligne avec Soro Adams. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a fait don de matériel informatique à la police, aux brigades de gendarmerie, aux préfectures et sous-préfectures de Doropo, Teini et Bouna. C'est dans la région du Bounkani. Ce don intervient en vue de faire face aux défis sécuritaires dans la lutte contre la fragilité des zones nord du pays. Jérôme Kouassi.
Au titre de l'année d'exercice, le PNUD a mené un paquet d'activités pour améliorer la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité de la région du Bounkani. Le représentant chargé du programme en prévention de conflits et de cohésion sociale du PNUD, Alassane Camara.
Des dialogues socio-sécuritaires pour renforcer un peu la collaboration entre forces de défense, de sécurité, population et jeunes. Au respect de l'autorité de l'État, au respect des emblèmes, à s'engager dans la prévention des conflits à travers l'animation des mécanismes d'alerte précoce. Une grande caravane pour la paix, une marche sportive qui a rassemblé 300 personnes qui s'est faite avec le commissariat, les forces de défense et de sécurité ici dans le Bounkani.
Le commissaire de police de Bouna a salué l'initiative du PNUD, Kouassi Maximin.
On a réalisé une activité sportive ici, de cohésion sociale. Je pense que cette activité a porté ses fruits. Ça nous a permis de prendre part à des élections locales et sénatoriales en toute sécurité dans la paix. Et vraiment aujourd'hui, vous venez nous appuyer avec du matériel informatique et surtout des torches pour nous permettre de sécuriser la population. Merci au PNUD pour l'appui à l'État de Côte d'Ivoire et plus particulièrement à la police.
Des consultations publiques avec les populations du Bounkani sont déjà entreprises sur la planification des activités de l'année 2024. Selon le chargé des programmes en prévention des conflits et de cohésion sociale, Alassane Camara, les activités seront toujours pilotées par le PNUD en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire et la République fédérale de l'Allemagne. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
Abidjan abrite une conférence internationale sur la réforme des finances publiques en Afrique francophone sur le thème collecter plus et dépenser mieux et qui devrait aboutir sur une déclaration dite déclaration d'Abidjan. Mata Touré.
L'objectif global de cette conférence est d'inciter les pays de la région ainsi que la Tunisie et le Maroc à mener une réflexion commune sur les mécanismes des réformes des finances publiques et d'identifier les meilleures pratiques. Minafou Fantakone Koulibaly est la représentante du ministère des finances et du budget.
Cette conférence, dont le thème central est « Collecter plus et dépenser mieux », a pour objectif général de partager les bonnes pratiques en vue d'améliorer les réformes des finances publiques dans nos pays. Plus spécifiquement, il s'agit de partager les leçons tirées des différentes expériences des pays en matière de réforme des finances publiques.
Sur les enjeux de cette conférence, écoutons Francesca Di Mauro, qui est la représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.
L'importance de collecter plus et de dépenser mieux afin de bâtir une résilience des États et de pouvoir réaliser les objectifs de croissance inclusive, d'égalité de genre, d'éradication de la pauvreté et de développement durable. On parle là en fait des objectifs de développement durable. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de cette devise passe par des réformes efficaces des systèmes de finances publiques.
À terme, il s'agira d'adopter une déclaration d'Abidjan sur les réformes des finances publiques et sur la création d'un pôle international d'expertise des finances publiques en Côte d'Ivoire.
Nous parlons cette fois de fonction publique ivoirienne. Les personnels enseignants hors de leur ministère d'origine pourraient être reclassés dans les échelles de traitement à égalité de grade et échelon avec les autres fonctionnaires de leur nouveau ministère, et ceci en application du décret de 1976. Théodore Zadignania, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public qui trouve la décision fondée, plaide tout de même pour sa suspension ou à un degré moindre sa modulation. On l'écoute.
Je voudrais d'abord rappeler que cette mesure-là est simplement l'application d'un décret pris en 1976. Ce décret-là a institué pour les enseignants des échelles particulières qui permettaient aux enseignants d'être ce qu'on a appelé décrochés de la grille générale. Mais dans ce décret, l'article 3 précise que cette spécificité qui est faite aux enseignants appartient uniquement à ceux qui restent dans le ministère de l'Éducation et de la Formation. En 2006, 2007, 2008, lors des négociations pour l'institution d'un profil de carrière pour les enseignants, cet article a été rappelé pour dire aux enseignants que en mettant en place un profil de carrière incitatif pour eux, l'objectif c'était de les amener à rester dans le système éducatif et non d'en sortir. Entre-temps, des ministères sont devenus des ministères à prime et ont donc attiré vers eux de nombreux enseignants et aujourd'hui nous sommes à plus de 11 000 enseignants concernés. Le gouvernement, à la fin de l'année dernière, a décidé de mettre en œuvre l'article 3 en donnant 3 mois aux enseignants concernés. Ma réaction en tant que syndicaliste, c'est que dans un premier temps, c'est un décret et l'État peut décider d'appliquer un décret quel que soit le temps mis. La seule chose, c'est qu'il s'agit du monde enseignant. Et demander à des gens qui ont quitté le secteur depuis des lustres, qui ont perdu la main, la pédagogie, l'andragogie, de revenir dans le milieu enseignant, je ne sais pas quel objectif on vise. Est-ce un problème financier ou un problème pédagogique? La deuxième chose, ça pose un problème social. Donc, il faut les laisser là où ils sont et fermer la porte à ceux qui veulent y aller maintenant. Nous sommes donc dans un plaidoyer pour demander au gouvernement de sursoir ou à tout le moins de moduler.
Président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, Théodore Zadignania, a été joint par Junior Cardin. Une campagne de sensibilisation sur la déclaration de naissance a été organisée le mercredi 15 novembre à San Pedro. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification initiée par l'ONESI en collaboration avec l'UNICEF et la Fondation Sébastien Haller. Kofi Benson.
Utiliser le football pour véhiculer le message de l'importance de la déclaration des naissances est en substance la vision de cette campagne de sensibilisation selon Grosso Nadège de la Fondation Sébastien Haller.
Sébastien étant lui-même footballeur, je lui ai dit s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu des parents qui ont bien voulu le déclarer pour l'importance. Le sujet, un enfant qui n'est pas déclaré, n'a pas d'identité, il nous bloque son avenir, on lui bloque les droits fondamentaux. C'est en ce sens qu'on a annoncé le projet. La campagne s'appelle l'ONEM, mon nom est personne, parce que ben, si tu n'as pas d'identité juridiquement, ben, tu n'existes pas. Nous, on a utilisé la partie football, de sport, pour pouvoir justement rassembler le monde. Donc la partie sensibilisation et établissement des documents est faite avec l'ONESI. Donc les parents qui n'ont pas d'extrait, qui n'ont jamais déclaré leurs enfants, seront amenés à la sous-préfecture justement pour déclarer ses enfants. Donc il y a tout un processus qui est mis en place, qui est gratuit.
Dossé Christine, déléguée régionale de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, le constat fait sur le terrain montre que nombreuses sont les mères qui négligent ou n'accordent aucun intérêt à la déclaration des naissances. Il faut que cela change, d'où cette caravane.
J'ai été vraiment surprise de voir des dames, quand tu les vois dehors, et puis savoir qu'elles-mêmes n'ont même pas déclaré d'abord les enfants. Moi, j'ai été un peu surprise. Donc, vraiment, on les encourage à venir déclarer les enfants. Ça ne coûte rien. C'est juste pour payer les frais de thème et à 500 francs, même si le délai est passé.
Après San Pedro, Dabou sera la prochaine localité qui accueillera la caravane. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
actualité sur le continent. RDC, la campagne électorale a commencé hier dimanche, dernière ligne droite avant les élections générales du 20 décembre prochain. Un scrutin multiple puisque les 44 millions d'électeurs auront à choisir leur nouveau président, les députés provinciaux et nationaux, ainsi que les conseillers communaux. Plusieurs candidats étaient déjà sur le terrain pour ce premier jour. Le président sortant qui brigue un second mandat, Félix Tshisekedi, était à Kinshasa pour un important meeting avec près de 80 000 personnes. Début de campagne réussi également pour l'opposant Martin Fayulu. Il était dans son fief naturel à Bandoudouville, dans le Kwilu. Et puis il y avait également un autre candidat sur le terrain, le député Deli Sesanga. Sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu cet après-midi les Gambiens sur le score de 2-0. Le match s'est achevé il y a un peu moins de 10 minutes. C'était en Tanzanie au stade Dar es Salaam, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Christian Kwame a ouvert le score pour la Côte d'Ivoire à la 45e minute. Et puis Seko Fofana a corsé l'addition à la 85e sur une frappe splendide en pleine lucarne. Les Mamelodi Sundowns sont de retour au sommet du football féminin après avoir battu les Marocaines du Sporting Club de Casablanca 3-0 en finale de la Ligue des Champions féminines de la CAF. C'était hier à Korogo, doublé donc de la buteuse Tola Kele Refiloué et un but de Boitumelu Rabalé ont permis aux Sud-Africaines de s'imposer. La réaction de l'entraîneur de Mamelodi Sundowns, Jerry Tchabalala.
I think they normally say lightning, it doesn't strike twice at the same place, but it looks like it has struck twice on the same place. The inaugural one, we've won the tournament without conceding.
Y a un dicton qui dit lorsqu'une lumière rentre, ça, cela éclaire tout le parcours. Donc le premier championnat, nous n'avons pas encaissé de but. Deuxième, nous n'avons pas encaissé de but. Et le troisième championnat dans lequel nous sommes également, nous n'avons pas encaissé de but. Cela ne veut pas dire que Mamelodi est plus forte que les autres équipes, mais simplement nous étions mieux préparés. Un coach qui est heureux, ce sont les joueuses qui sont aussi heureuses. Et je pense que cela contamine l'équipe. Il faut savoir que bien vrai, nous avons gagné cette compétition. Nous allons juste continuer à jouer. Nous allons continuer à donner le meilleur de nous parce que la bonne vision, c'est de pouvoir participer au championnat mondial de la FIFA.
Voilà, c'était donc Jerry Tchabalala, coach des Mamelodi Sundowns. Autre réaction, Adjoa, Kokora et Nguessan Ladej, elles sont deux joueuses de l'équipe marocaine. Elles disent entrer au labo pour un futur retour triomphal.
Ça fait déjà un grand plaisir pour moi de venir chez moi au pays participer à cette compétition. C'est l'équipe la plus estimée de la compétition et puis une désespérée. D'abord, comme vous le constatez, on n'est pas désespéré, mais bien qu'au contraire, nous sommes fiers de nous. Parce que finir deuxième ce podium, c'est vraiment pas évident.
Kofi Nadège, maintenant.
On devient deuxième équipe d'Afrique. Donc, ça a félicité, même si on n'a pas pu gagner ce match aujourd'hui. L'équipe de Sundowns, c'est une grande équipe. Elles ont l'habitude de jouer ces grandes finales. Nous, c'est notre première fois et tout. Et on va rentrer au labo et travailler encore et venir Inch'Allah. Bon, mon ambition, c'est d'avoir des trophées avec l'équipe, d'aller loin avec l'équipe. On ne va pas s'arrêter là. Comme j'ai dit, on va toujours travailler et avoir des trophées.
Les impressions de l'entraîneur de Mamelodi, Jerry Tchabalala, et puis les Ivoiriennes ont été recueillies par César Yao. Sur cette note, refermons en ce moment, c'est donc le rappel des titres. Institutionnalisation des processus d'apprentissage, amélioration de la gestion électorale. Pour répondre à ces différentes préoccupations, le réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest est en réunion à Abidjan, 20 et 21 novembre 2023. 5 candidats entendent briguer le suffrage des militants pour l'élection du PDCI-RDA, élection de président, multiplicité de candidatures, vitalité au sein de parti. Vous avez suivi l'analyse du docteur Eddy Guipier. Élection RDC, la campagne a commencé hier dimanche. Plusieurs candidats étaient déjà sur le terrain pour ce premier jour. Et puis en sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Gambiens sur le score de 2-0. C'était en Tanzanie, au stade Dar es Salaam, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de soirée à tous et à toutes. Dans quelques secondes seulement, retrouvez Jean-Claude Comé pour Economia. Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Industrie pétrolière et